L'atelier des médias.
OGP 2016 ou OGP 16, vous l'avez à coup sûr vu passer sur Twitter, vous l'avez probablement entreaperçu sur Facebook et vous avez peut-être même entendu notre dernière émission, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le gouvernement ouvert. Eh bien, nous y voilà, OGP 2016, c'est donc le mot dièse ou le hashtag consacré pour suivre le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert. On pouvait difficilement faire plus obscur comme nom, et c'est vrai, tout ceci peut paraître bien technique, bien aride, bien étranger au quotidien de nous autres, humbles artisans de nos existences, âmes errantes et laborieuses, mais surtout citoyens d'un monde de plus en plus complexe, interdépendant et connecté. Alors, j'ai bien envie de vous proposer l'exercice suivant, quitte à parler de ce sommet réunissant plus de 5000 représentants venus de plus de 70 pays, alors soyons le plus concret possible aujourd'hui. C'est bien beau de parler de COP21 de la démocratie, d'organiser des hackathons à l'Elysée et d'animer à tout va des ateliers dans les salles du Conseil économique, social et environnemental transformé en bunker en plein cœur de Paris. Oui, il n'est pas inutile de profiter de ce sommet dit du partenariat pour un gouvernement ouvert pour tester la consistance de cette promesse. Un gouvernement ouvert, c'est d'abord un gouvernement qui se doit de composer avec les forces vives de la société civile. Et un gouvernement ouvert, pour ce faire, met systématiquement l'information d'intérêt public et ses données ouvertes à la disposition du public. Et comme il n'est pas sûr que les gouvernements sauront libérer l'accès aux bonnes données, c'est-à-dire aux données utiles, aux données pertinentes, l'atelier des médias de RFI vous propose cette semaine d'entendre des acteurs de la société civile issus de pays du Sud et de professionnels de la donnée pour tenter d'y voir plus clair.
L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Nous sommes donc au Conseil économique, social et environnemental et cette émission que l'on enregistre en ce jeudi 8 décembre est aussi diffusée en direct sur Facebook Live. Nous sommes donc sur le plateau de Démocratie Ouverte, en plein cœur du Conseil économique et social, et vous pouvez retrouver ce Facebook Live sur la page Facebook de l'Atelier des médias. Partons donc, s'il vous voulez bien, d'une façon simple de poser les questions. Si le gouvernement ouvert est une nouvelle manière de collaborer entre les acteurs publics et la société civile, et si l'enjeu c'est d'apprendre à trouver des solutions conjointes aux grands défis auxquels les démocraties font face, la question à laquelle j'ai envie d'essayer de répondre aujourd'hui avec mes invités, c'est la suivante. L'open data est-il le plus sûr chemin vers une démocratie plus ouverte? Pas facile d'y répondre, mais on va essayer de s'y coller avec nos invités en plateau, mais aussi avec vous sur Facebook si vous avez des questions ou des suggestions. Voilà, j'ai assez parlé et je passe la parole à Sylvain Lapoix. Bonjour Sylvain.
Salut Julien.
Alors, pas de bol, je commence avec vous. Et vous, comment vous présentez? Vous avez de multiples casquettes. Alors, on va commencer par le commencement. Vous êtes journaliste, vous êtes enquêteur pour DataGueule, un format vidéo qui précisément carbure aux données. Vous confirmez, vous carburez aux données?
On carbure grave aux données, c'est un peu notre dope. Et c'est une autre façon de faire du journalisme, en fait. C'est plutôt que d'aller voir des experts pour qu'ils nous disent comment ça se passe et ensuite d'aller sur le terrain chercher des choses qui confirment ce que nous ont dit les experts. Nous, on part des documents eux-mêmes, des bases de données, ouvertes ou non. Des fois, on va parfois au-delà des limites de ce que les gouvernements publient. On va chercher dans des rapports, dans des éditions scientifiques, dans différents types de contenus pour finalement aider les citoyens à se reposer des questions avec d'autres bases qui sont les données. Et ça marche plutôt bien puisqu'on a 270 000 personnes qui nous suivent sur YouTube.
Alors justement, Sylvain Lapoix, revenons précisément sur certains de ces épisodes. Vous avez parlé par exemple du franc CFA, de l'accès aux minima sociaux ou même de la notion de démocratie représentative en attaquant la question du suffrage. Quelles sont les données précisément que vous utilisez? Je vous pose la question parce qu'on parle de gouvernement ouvert, d'open data, de données ouvertes. J'ai comme l'impression que les données que vous utilisez ne sont pas celles qu'on trouve sur data.gouv.fr, Sylvain Lapoix.
Non, c'est vrai que data.gouv.fr, j'y ai pas beaucoup recours avec mon collègue Julien Goetz, qui est le co-auteur et qui te salue d'ailleurs. Et il se trouve que très souvent, on est obligé d'aller un peu au-delà. C'est-à-dire que quand on a parlé des minima sociaux, il a fallu plonger dans des rapports parce que eh bien, des chiffres très simples sur, par exemple, qui fait quoi quand il touche un minima social, est-ce qu'il cherche du travail ou pas, eh bien ça, on le trouve pas toujours dans les bases de données. Dans les bases de données, on trouve des données très générales, on trouve les tranches d'âge, on trouve la situation familiale, des choses comme ça. Mais sur ces éléments qui sont critiques, parce que c'est là-dessus qu'on crée des mythologies aussi et des fausses informations et que des fois, on confuse et on crée des fausses idées dans la tête des citoyens, ces données-là, elles ne sont pas accessibles. Il faut aller beaucoup plus loin. Un exemple tout bête sur le franc CFA, je voulais savoir quel était le taux de rémunération des comptes que les pays qui ont le franc CFA quel est le taux de rémunération de ces comptes quand ils placent de l'argent en France? Parce que placée auprès de la Banque de France. Eh bien, cette donnée-là, elle n'est pas disponible sur le site de la Banque de France. J'ai cherché. J'ai été obligé d'envoyer un mail pour avoir confirmation de cette information qui, normalement, devrait concerner et être disponible pour tous les Africains qui utilisent le CFA.
Donc, c'est pas forcément disponible sur data.gouv.fr, donc la plateforme censée en fait informer les citoyens d'un certain nombre de données publiques ouvertes, c'est-à-dire facilement réutilisables. Est-ce que ça vous est arrivé de recourir au tribunal pour réclamer l'accès à un certain nombre de données administratives, Sylvain Lapoix ?
Personnellement, j'ai jamais eu recours à la commission d'accès aux documents administratifs, qui est donc l'organe en France qui est chargé d'assurer l'accessibilité des documents. Mais il faut savoir que mes collègues et confrères qui l'ont fait, eux, n'ont pas toujours eu une bonne réponse, parce que la CADA, puisque c'est son nom,
commission d'accès aux documents administratifs,
n'est un organe qui a aucun pouvoir autre que simplement incitatif. C'est-à-dire qu'on va signaler ça, ils vont dire c'est pas très très bien de pas donner les données en open data sur tel sujet, et après elle n'aura aucun moyen de sanction ou autre que l'interpellation. Elle va dire c'est pas bien et ce sera fini.
Et alors si on essaie de rentrer un peu dans la popote de ta gueule, si les données ne sont pas disponibles mais vous les repérez sur une page web, est-ce que ça vous arrive parfois de scraper des données comme on ne dit pas, c'est-à-dire d'aller les chercher, de les structurer et de les partager derrière, Sylvain Lapoix?
Très régulièrement, parce que beaucoup données, comme je le disais, ne sont pas dans les interfaces qui sont destinées à cet usage. Elles sont dans des rapports extrêmement complets et c'est très impressionnant toutes les informations qu'on peut trouver dans ces rapports qui sont en ligne. On a ce souci d'avoir des données qui sont accessibles pour que les internautes, les citoyens derrière puissent aller revérifier nos sources pour qu'on puisse surveiller les surveillants qu'on essaye d'être sur les données. Et du coup, quand on a un rapport et qu'on veut faire des calculs à partir des données qu'ils contiennent, on est obligé d'utiliser du scrapping. Parce que c'est des fichiers PDF qui sont
donc
peu utilisables.
Donc le scrapping, pour le dire de manière...
Le scrapping, pour le dire de manière très simple, c'est en fait des données, c'est récupérer des données qui ne sont pas en format utilisable par la machine pour faire des calculs et de les mettre dans des formats tableaux avec lesquels on peut faire des calculs. Et
ça, donc, par exemple, je vais sur une page de la Banque de France, je repère des statistiques qui m'intéressent, je me débrouille pour les structurer, les récupérer automatiquement, les mettre dans un beau tableau, et après ça, quand je fais mon data gueule pour essayer de faire des comparaisons, je suis beaucoup plus à l'aise et agile pour réussir à informer autrement le citoyen.
Est-ce tout à fait.
C'est un résumé qui vous convient?
C'est un bon exemple. Le grand classique, c'est aussi les PDF, qui sont des formats qui sont très bien pour la lecture, mais avec lesquels on ne peut pas faire de calcul. Récemment, on a fait un atelier avec des Africains au Bénin. Il faut savoir que la liste des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est un PDF de 120 pages. C'est un très beau tableau, il est très bien structuré, mais il est dans un format où on ne peut pas faire de calcul, ce qui est complètement fou, puisque le tableau, il existe. Donc on voit qu'il y a aussi des fois des façons de bloquer l'accès à l'information par le format sous lequel il est diffusé, et c'est l'une des très nombreuses barrières qu'on rencontre quotidiennement dans l'équipe de DataGueule.
Vous êtes donc en train de nous dire qu'en France aussi, il y a encore un immense chemin à faire en termes de droit d'accès des citoyens à des informations utiles et pertinentes pour précisément aller vers ce qu'on appelle le gouvernement ouvert.
Le problème, c'est que la notion d'open data et de gouvernement ouvert, aujourd'hui, c'est une notion de communication. On voit beaucoup d'organismes qui font ce qu'on appelle des hackathons, y compris ici, et où ils disent « Tenez, on vous laisse regarder un petit peu ces données super intéressantes, et puis vous faites des trucs avec. » Sauf que ce qui se passe derrière souvent, c'est que les programmes qui ont été développés par des gens volontaires et curieux, ils sont récupérés par l'institution, et ensuite, après avoir ouvert la boîte à jouets, ils la referment, et on n'a plus accès à ces données-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on est obligé finalement de recourir à la société civile, à des organisations comme l'Open Knowledge Foundation au niveau international ou bien au niveau national Regard Citoyen pour publier ces données, forcer le coup et créer un rapport de force.
Alors justement, l'Open Knowledge, on en parlera tout à l'heure de cette fondation. Et vous faites mention de Regard Citoyen, justement, boum, on est ici au Conseil économique, social et environnemental en plein cœur de Paris. Et à l'occasion de ce sommet dit du partenariat pour un gouvernement ouvert, on a eu une tribune signée par 11 associations ou collectifs qui ont soulevé un certain nombre de points intéressants. Et le tout est titré « Open Gov à la française, un leurre ». Alors, petit exemple, premier point, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, ce n'est pas la multiplication des consultations qui redressera le cap tant que les logiques politiques d'autrefois continueront de prévaloir. Depuis 2 ans, la société civile n'aura jamais été autant consultée et aussi peu entendue. La logique participative, je cite, a été constamment instrumentalisée pour masquer la persistance de la mainmise de la machine administrative et des lobbies installés. Ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire beaucoup d'exemples où on s'est confronté à cette machine et à ce blocage administratif. Il faut savoir qu'en France, qui est quand même censé être un pays démocratique, parmi les gros problèmes qu'on a, il y a la prison. Et le ministère de la Justice ne diffuse pas les informations, les données, qui nous permettent de savoir, par exemple, combien de temps les gens sont mis en prison en fonction de quel délit, ça, on n'y a pas accès. Et vous avez quotidiennement des hommes politiques qui vont vous dire « Oui, mais alors c'est un scandale, les récidivistes, et on ne peut pas comprendre de quoi ils parlent parce que nous n'avons pas accès à ces données. » Sauf que nous savons que ces données existent. Donc, il n'y a pas d'ouverture. Et finalement, on voit que dans l'open data, il y a beaucoup de façons d'en faire. Et l'une des façons d'en faire, c'est de dire « On produit les données, mais on ne va pas vous les montrer. » Et ça, en l'occurrence, les citoyens s'en rendent compte au bout d'un moment et on doit créer un débat et un rapport de force et s'imposer à l'administration qui, de son côté, fait beaucoup de communication mais parfois n'agit pas.
Alors, autre aspect soulevé par cette tribune, c'est le choix des technologies qui peut être mobilisé quand on fait, par exemple, une consultation publique. Sylvain Lapoix, qui dit consultation publique, dit logiciel libre. Pour vous, cette équation, elle est évidente ?
Pas du tout. En l'occurrence, on voit qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels le gouvernement, finalement, reste dans des options extrêmement classiques. On a vu des très gros contrats qui sont gérés avec des organismes de recherche publique, par exemple, avec Microsoft, avec des grands éditeurs internationaux, alors qu'on a en France un super écosystème de sociétés qui font du logiciel libre, alors qu'on a en France des gens qui font des super dispositifs de consultation citoyenne avec des formats libres, avec des formats ouverts, qui publient leur code sur des plateformes de partage de code comme GitHub par exemple. Et tout ça se développe et on a l'impression vraiment que des fois il y a deux mondes parallèles avec d'un côté une espèce de lobby de la société civile qui dit mais on a tout ce qu'il faut, pourquoi vous en servez pas, et que de l'autre côté on a l'administration qui dit s'il vous plaît, laissez faire les professionnels, alors qu'ils ne sont pas des professionnels de toute évidence. Et ça, on peut le voir, et on a même vu des débats au sein du gouvernement avec la ministre du Numérique, Axelle Lemaire, qui régulièrement est obligée de rappeler deux, trois évidences sur le numérique à ses collègues qui s'occupent des dossiers les plus cruciaux de notre débat public.
Dernière chose, à la veille du sommet, deux décrets ont été publiés sur les tarifs de la vente de certaines données issues de l'État. Ça vous inspire quoi pour vous ? Est-ce que c'est possible, pas possible, envisageable, pas envisageable ?
Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. L'Institut géographique national, par exemple, qui est chargé de la cartographie, vit en partie de la commercialisation de ces cartes. Récemment, ils sont rapprochés d'organismes comme OpenStreetMap, qui lui est non lucratif pour
partager du contenu. Donc, c'est une solution de cartographie participative et collaborative.
Voilà, donc ils essayent de travailler un peu ensemble, mais on voit qu'il y a un souci, c'est que derrière ça, il y a des politiques publiques qui sont aussi avec des objectifs de rentabilité, et qu'on dit aux administrations, sortez du fric, faites des euros, faites des millions, et que la seule façon qu'ils ont, c'est qu'ils se disent, ah mais tiens, les données, c'est vachement intéressant, c'est une manne, on va le vendre aux entreprises, on va le commercialiser auprès des particuliers. Sauf qu'on voit qu'il y a plein d'usages différents de la chose et que l'un des usages qui est le moins privilégié là-dedans, c'est l'usage citoyen, la réappropriation et finalement le fait d'alimenter le débat public plutôt que d'alimenter les moteurs des algorithmes des grandes entreprises qui n'ont pour but finalement que de connaître les citoyens pour leur refourguer des trucs et vendre.
J'ai une question, Sylvain Lapoix, quand des données n'existent pas mais qu'il y a un problème qu'on a envie de résoudre, est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps en tant que journaliste ou membre de la société civile dans le fait de fabriquer des données qui peuvent être utiles ? Est-ce qu'on peut les fabriquer, ces données ?
Ah mais en l'occurrence, c'est extrêmement rentable. Le seul problème, c'est que quand on n'a pas les compétences, c'est compliqué. Mais on le voit par exemple avec OpenStreetMap. OpenStreetMap a réussi avec juste en organisant des ateliers, en formant des équipes sur le terrain, y compris dans des pays très compliqués qui ont peu d'infrastructures numériques, comme Haïti, comme la RDC, etc. Ils ont réussi à cartographier des choses qui n'existent pas. J'étais au Burkina Faso récemment, il n'y a pas de carte en ligne détaillée de Ouagadougou, la capitale, qui compte quand même plus d'1,5 million d'habitants. Eh bien, il faut savoir que la carte la plus détaillée de Ouagadougou, elle n'est pas sur Google Maps, elle est sur OpenStreetMap, et c'est des citoyens qui l'ont fabriquée. Et il y a plein d'exemples comme ça où le fait de collecter soi-même les données, eh bien, ça a permis de forcer la main. Regard citoyen en France, c'est ce qu'ils ont fait avec les données issues du Parlement. Et pour le coup, quand j'étais chez OVNI, ce qu'on a fait, c'est que
OVNI.fr,
il y avait une donnée importante, on donnait de l'argent aux parlementaires pour ce qu'on appelle la réserve parlementaire, on ne savait pas à quoi ils dépensaient. Nous, on a trouvé un document où c'était, on les a compilés, on en a fait une liste. D'autres collègues journalistes s'y en sont mêlés et au bout d'un moment, le gouvernement a dit « Bon, puisque vous voulez publier, autant qu'on le fasse nous-mêmes. » Et ça, c'est des petites victoires, mais qu'il faut essayer d'avoir un peu partout.
Sylvain Lapoix, vous êtes encore plus bavard que moi, on va essayer d'avancer. Vous êtes donc également expert pour le programme Open Data Media de CFI Media. C'est pour ça ici d'ailleurs qu'on est réunis avec les autres invités. Grosso modo et très rapidement, ce programme-là, c'est combien de pays, combien de participants et surtout pour faire quoi ?
Alors, c'est 50 participants, 15 pays. On a 10 pays d'Afrique francophone, depuis Madagascar jusqu'au Mali. On a des pays arabes, on a des pays du Caucase, on a des pays asiatiques qu'on a formés à l'occasion de 3 ateliers, 2 à Dakar, 1 à Manille. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a voulu qu'ils viennent assister à l'OGP, mais pas juste comme des spectateurs.
Donc à cette conférence ici.
À cette conférence et à tout ce cycle, pas que comme simples spectateurs, qui soient en capacité de comprendre tout ce qui se passait. Donc on les a formés aussi à la manipulation des données, au niveau politique, au niveau technique. Et ils vont également, demain matin, faire un atelier dans lequel ils vont faire la restitution pour expliquer ce qui manque comme open data dans leur pays, de leur point de vue société civile, qu'ils soient activistes ou journalistes.
Donc c'est une sorte de plaidoyer en fait en faveur d'une ouverture et d'un accès renforcé aux données, voire même à la création d'un accès aux données quand elles n'existent pas.
On va avoir 10 pays différents représentés demain, 10 pays d'Afrique, dont certains ne sont même pas présents à l'OGP, donc c'est très important.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes ici pour parler de gouvernement ouvert, d'accès aux données publiques, et je suis précisément en compagnie d'un confrère burkinabé, Gaston Sawadogo. Bonjour Gaston.
Bonjour Julien.
Je suis très heureux de vous accueillir ici. Vous avez travaillé avec Sylvain. C'est Sylvain qui m'a dit qu'il faut absolument que tu rencontres ce journaliste qui travaille donc à l'événement. Vous menez des investigations, vous réalisez des reportages sur le foncier, la santé, l'éducation, les droits de l'homme, la corruption aussi dans les marchés publics. Et j'ai l'impression que ce sont vraiment les politiques publiques qui vous intéressent. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment donné de vous intéresser à ce qu'on appelle le journalisme de données, Gaston Sawadogo?
Alors, le journalisme de données, moi, je l'ai découvert avec Sylvain Lapoix, justement à l'occasion d'une session de formation organisée par CFI au Burkina Faso. Et quand il m'a parlé de l'importance des données, et du moment où on arrive à rendre les données lisibles pour le citoyen, mais quand moi j'ai découvert ça, j'ai dit, mais tiens, ça peut m'aider à rendre encore plus vivant mes investigations.
Alors, voilà. Soyons concrets. Est-ce que, par exemple, pour l'événement, vous avez pu injecter dans vos recherches, dans vos enquêtes, des techniques qui vous ont été enseignées et partagées par Sylvain Lapoix?
Non, pour le moment, non. Concrètement, non. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus parce que nous sommes en pleine restructuration au niveau de l'événement. Et justement, nous sommes en train de vouloir créer un volet qui sera consacré au journalisme des données. Mais pour le moment, concrètement, ça n'existe pas. Parce que disons qu'au Burkina Faso, en réalité, le journalisme des données n'est pas vraiment une appropriation des médias au Burkina.
Et pourtant, interrompez-moi si je me trompe, il me semble qu'au Burkina Faso, on a un portail d'open data.
Oui, on a un portail d'open data qui a été initié par des citoyens, mais qui n'est pas exploité par les journalistes. Disons même qu'en réalité, même si les journalistes savent ce que c'est que le journalisme des données, c'est au plan académique en réalité. Mais dans la pratique, ça n'existe pas dans les médias burkinabés jusqu'à l'heure où je vous parle.
D'ailleurs, je l'ai jeté un coup d'œil. En tout cas, hier, on avait 262 jeux de données sur data.gov.bf. Vous les avez jamais utilisés, vous, ces données?
Non.
Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose sur les finances publiques. Alors, comment faites-vous à l'événement quand vous vous intéressez justement à une forme de traçabilité des dépenses publiques, les marchés publics? Quelle est votre méthodologie de travail?
Bon, disons qu'à l'événement, c'est la croix et la bannière parce que là, quand nous voulons travailler, moi par exemple, quand je veux travailler sur un sujet, il faut d'abord avoir le fil. Le fil, quelquefois, je prends un exemple concret. J'étais un jour en train de lire le rapport du Conseil des ministres. C'était en octobre 2015, pendant la transition. À un moment donné, je vois qu'il y a un marché public qui est passé par le Conseil des ministres et qui a coûté plus de 13 milliards. Et ce marché a été passé par la procédure d'entente directe. Le Conseil n'a fait que valider la communication du ministre de l'économie de l'époque qui a fait passer le marché par entente directe. Alors moi, ça m'a tiqué. J'ai essayé de rechercher le code des marchés publics et quand j'ai lu le code des marchés publics à partir des articles 73 et suivants, j'ai vu qu'à partir de la somme de 100 millions de francs CFA, le marché, par exemple, ne peut pas être passé par la procédure d'entente directe. Alors, donc moi, j'ai essayé maintenant de comprendre. C'est là maintenant que j'ai commencé à avoir des contacts au niveau du ministère de l'économie pour savoir pourquoi ce marché est passé par la procédure d'entente directe.
Si vous aviez un ou des jeux de données à réclamer, une sorte de plaidoyer ici à formuler à l'antenne sur RFI pour avoir accès à des données, par exemple, sur les marchés publics, ce serait quoi précisément, Gaston Sawadogo?
Moi, ce serait surtout l'exécution des programmes budgétaires de l'État. Parce qu'actuellement, le Burkina est dans une dynamique d'économie, de développement. Il y a le PNDS qui vient d'être lancé. Et je suivais le ministre des Affaires étrangères hier, qui est venu déposer son...
Donc hier à Paris?
Oui, hier à Paris.
Donc c'est-à-dire mardi, en fait.
Effectivement. Qui est venu déposer l'adhésion du Burkina Faso à OGP. Je suivais également un des conseillers spéciaux du président du Faso, qui a fait un tweet sur lequel il disait que le PNDS a largement dépassé l'objectif. Parce que le Burkina recherchait 5800 milliards de francs CFA, et là on est à environ 10 000 milliards de francs CFA. Et quand il a fait le tweet, moi j'ai répondu à son tweet en le taguant, bien sûr, en taguant le président du Faso, en taguant le ministre des Affaires étrangères, pour leur dire mais c'est bien, mais l'essentiel c'est pas de collecter le fonds, le peuple veut voir clair par rapport à l'utilisation concrète de ces données, et de ces financements, et nous allons vous suivre L'essentiel, c'est que ça soit transparent.
Merci pour ce plaidoyer. Gaston Sawadogo, Sylvain Lapoix, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de gouvernement ouvert et de données ouvertes au service précisément d'une démocratie plus ouverte. On se retrouve dans un instant après le flash. À tout de suite. Atelier des médias, deuxième partie. Nous sommes au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Nous sommes aussi en direct sur Facebook Live et nous venons d'entendre Gaston Sawadogo, journaliste burkinabé pour l'événement, et de Sylvain Lapoix qui est journaliste à DataGueule et expert et intervenant sur le programme Open Data Media de l'agence CFI. Et nous profitons du sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert pour tenter de répondre à une question. L'open data est-il le plus sûr chemin vers une démocratie plus ouverte? Nous avons donc notamment évoqué le cas du portail Open Data du Burkina Faso. D'ailleurs, nous avons avec nous quelqu'un qui connaît bien le cas burkinabé. Bonjour Pierre Chanowski.
Bonjour Julien.
Alors vous êtes spécialiste des données ouvertes, vous travaillez en consultant indépendant, vous avez travaillé pour la Banque mondiale et vous êtes également membre de la fondation Open Knowledge, un réseau qui milite pour l'ouverture des données. D'ailleurs, Open Knowledge, il y en a une version pour les francophones. Et comment le présenter pour les francophones?
Voilà, alors en quelques mots, Open Knowledge, donc on peut dire en bon français, l'association pour le savoir libre, milite pour l'ouverture de la connaissance en général. Et donc effectivement, on travaille beaucoup sur les données ouvertes. Et donc on a une association ici en France que j'ai pu cofonder. Mais on essaye également de fédérer un peu les différentes associations locales dans la francophonie. Je vous invite tous dans les pays francophones à essayer de vous rapprocher de votre association dans votre pays Open Knowledge, et s'il n'y en a pas, pourquoi pas créer la vôtre.
On vous retrouve d'ailleurs très facilement sur Facebook, et vous m'avez parlé aussi en préparation de l'émission d'un index à mon avis assez important à partager, et donc on le fait bien volontiers à l'atelier des médias. Donc c'est de l'Open Data Index, qui est une évaluation collaborative, si je ne me trompe pas, de la disponibilité des données essentielles par pays. Ok, ça paraît un peu complexe comme ça. En gros, c'est quoi l'enjeu et pourquoi participer, Pierre Chanowski?
Voilà, donc l'idée, c'était de évaluer tous ensemble la disponibilité de ce qu'on va définir comme des jeux de données essentiels pour un pays. Donc les jeux de données essentiels pour un pays, ça va être par exemple, on a beaucoup parlé des finances publiques. Donc est-ce qu'on a le budget de l'État? Est-ce qu'on a les données sur les dépenses publiques qui ont été exécutées à la fin de l'année? Ensuite, on va avoir des données de base. On a beaucoup parlé de cartographie aussi. Ça fait partie des données de base pour un pays, pour une société. Donc est-ce qu'on a les cartes en données ouvertes dans son pays, donc etc. Donc on a défini 15 jeux de données qu'on considère comme essentiels. Et ce qu'on propose, c'est que chacun dans son pays nous dise si ces données sont disponibles, si elles sont en ligne, si elles sont dans les bons formats, donc dans des formats ouverts, si elles sont associées à une licence ouverte, etc., etc. Et donc vous pouvez effectivement contribuer. Donc c'est sur le site global. survey.okfn.org et vous avez jusqu'à fin décembre pour le faire.
Un lien que l'équipe de l'atelier des médias va s'empresser de partager sur Twitter et sur Facebook. Continuons et revenons peut-être sur votre casquette de consultant indépendant en matière de données ouvertes, d'open data. Quel est, vous qui avez travaillé notamment pour la Banque mondiale, quel est le credo des grandes institutions en matière de libération de données? Pourquoi accompagnent-elles les gouvernements et quel est à leurs yeux, enfin en tout cas du point de vue de ces institutions internationales, l'enjeu, Pierre Chanowski?
Oui, donc alors parlons de la Banque mondiale, effectivement, que je connais bien. Donc la Banque mondiale, c'est une institution financière internationale qui finance via des prêts ou des dons des projets de développement au pays. Donc cette institution, elle a été confrontée à un certain nombre de critiques sur son manque de transparence notamment, et sur la non-disponibilité des données sur ses financements et sur les projets qu'elle finançait. Donc elle a pris en 2010 une décision très importante, et c'était une des premières à le faire, d'ouvrir ces données, et donc d'ouvrir les données notamment donc sur les projets, donc c'est-à-dire combien coûte tel projet, qu'est-ce qu'il va financer et quels seront les résultats, mais également les données qu'elle produit pour elle-même fonctionner. Donc c'est-à-dire par exemple toutes ces données statistiques qu'elle connecte sur tous les pays. Donc la Banque mondiale a une des plus grandes bases d'indicateurs sur tous les pays. Elle a mis également ça en open data et voilà, je pense que c'est aujourd'hui un bon exemple.
Vous êtes en train de dire à nos auditeurs que si d'aventure il n'y a pas de portail open data local ou national dans leur pays, ils peuvent déjà, d'ores et déjà, retrouver parfois des données macro, comme on dit, c'est-à-dire qui permettent d'avoir en tout cas des grandes statistiques sur un certain nombre d'indicateurs économiques de leur pays, je ne me trompe pas?
Oui, alors, mais le truc, c'est qu'en fait, ces indicateurs macro, souvent, ils sont pas utiles pour les acteurs locaux, justement. Donc, c'est là où, en fait, la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds donc ont commencé aussi à financer des projets open data au niveau des pays, même également au niveau des villes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu intervenir. Donc, l'idée, c'est ne pas seulement ouvrir ses propres données, mais c'est appuyer ces pays donc à ouvrir leurs propres données.
Et justement, revenons par exemple sur le cas du Burkina. Pourquoi ce pays a-t-il été pionnier à vos yeux et comment ça s'est passé ? Quelle a été la méthodologie ? Comment est-ce qu'on a fait pour accompagner le gouvernement sur le début d'ouverture de ces données ouvertes et publiques ?
Oui, donc tout à fait. Avec le Burkina, je dirais, le plus important au départ, ça a été il y a eu une demande du pays pour aller vers plus d'open data. Et donc on a pu travailler avec eux, on travaille avec eux depuis maintenant 3 ans, donc sur cette initiative d'open data, on peut notamment retrouver le portail data.gov.bf. Et donc en fait, ce qu'on fait et ce qu'on a fait ensemble, c'est d'essayer d'identifier les barrières à l'ouverture de données et d'essayer de les casser une à une. Donc quand on parle de barrières à l'ouverture des données, on va d'abord parler de barrières économiques. Souvent ces données sont vendues ou sont dans des modèles économiques qui ne permettent pas aux citoyens ou à la petite entreprise de les acheter parce qu'elles sont très chères. On va également avoir la barrière juridique, c'est-à-dire qui possède les données, qui a le droit de réutiliser ces données. Donc là, il est très important d'avoir les bonnes lois, et souvent dans les pays notamment, on n'a pas ce droit d'accès à l'information et qui stipule que les données de l'État, c'est des données qui doivent être mises à disposition du public. Et enfin, et ça a déjà été évoqué par Sylvain, il y a toutes ces problématiques autour de la technique. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde du numérique. Donc partager des données au format papier, je dirais, c'est pas la bonne solution pour partager. C'est pas la solution la plus efficace. Donc on regarde si ces données sont en ligne, si elles sont dans les bons formats et si elles peuvent être réutilisées par tout un chacun sur son ordinateur, etc.
Et quand une grande institution comme ça se met à accompagner un gouvernement dans la libération ou l'ouverture de ces données, d'ailleurs on hésite toujours entre ces deux termes par rapport à la traduction, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'associer la société civile ? Parce que ouvrir ces données, si jamais elles restent dans un recoin obscur du web, finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Comment est-ce qu'on fait pour stimuler l'intérêt et susciter l'intérêt des citoyens, voire même les associer pour qu'il y ait une forme de plaidoyer qui vienne de la société civile pour dire mais les jeux de données dont on a besoin, ce sont ceux-ci. Pierre Chanowski.
Oui, donc ce qu'on peut voir dans un programme de données ouvertes, c'est on a deux choses. On a d'une part la production de l'information et de l'autre côté, on a la demande et aussi la réutilisation de cette information. Donc ce qui est très important, c'est quand on se met en place ce type de démarche, c'est de créer les espaces pour que la production rencontre la demande. Et créer ces espaces, c'est très concret. Ça veut dire que c'est des gens qui doivent se rencontrer et chacun, les utilisateurs doivent comprendre quelles sont les données produites, quelles sont les données aujourd'hui qui ne sont pas disponibles. Il y a encore beaucoup de données qui ne sont pas collectées, par exemple, dans ces pays. Et de l'autre côté, pour les administrations, de comprendre quels sont les besoins des associations, des entreprises, etc. en termes d'information.
En tout cas, on le sent chez vous, il y a une très forte conviction du fait que la société civile a un rôle à jouer. Autre aspect qui est très important par rapport à tout ce qui est données ouvertes, c'est, et vous me parliez de deux cas ou de deux pays qui montrent qu'il y a des scénarios d'utilisation de ces données qui peuvent être très utiles, c'est le Sierra Leone et Haïti. Pourquoi d'abord le Sierra Leone, Pierre Chranowski ?
Oui, donc en fait, dans ces deux pays où j'ai eu l'occasion de travailler, on a eu des crises récemment. Sierra Leone, Ebola et Haïti, le tremblement de terre de 2010. Et en fait, lorsqu'on a ce type de crise, les personnes qui vont intervenir, la première chose qu'elles vont faire, c'est regarder où sont les informations vitales. Donc quand on parle d'informations vitales, dans ce cas-là, on parle de l'information, encore une fois, géographique. On va aussi parler, par exemple, de la liste des hôpitaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes, quand elles sont arrivées dans ces pays, ou même les personnes locales, ne trouvaient pas ces informations. Elles ne les trouvaient pas en ligne, elles ne savaient pas où chercher. Donc ça, c'est des cas très concrets qui montrent à quel point c'est important d'avoir la donnée en amont. Et là, on parle de données vraiment de base, comme une liste d'hôpitaux. Donc ce qui a été mis en place ensuite, c'est que on a fait de l'open data. On a fait de l'open data d'urgence, c'est-à-dire qu'on a partagé les données géographiques, on a créé de la donnée géographique notamment avec un projet comme OpenStreetMap et on a partagé par exemple la liste des données de santé. Donc moi ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que on dépense énormément d'argent sur par exemple des projets dans l'éducation, dans la santé, mais si à la fin de ces projets on n'a pas en ligne la liste des établissements ou la liste des écoles, je pense là il y a un vrai problème et ça je crois que c'est une responsabilité à la fois des bailleurs de fonds et des gouvernements.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes ici en fait pour parler de gouvernement ouvert et d'open data. L'open data, donc les données ouvertes, qui sont peut-être l'un des chemins ou le chemin peut-être le plus sûr pour aller vers une démocratie plus ouverte. Et je prolonge un peu une réflexion qu'on a entamée la semaine dernière dans l'émission de l'atelier. Et vous mentionniez d'ailleurs sur Twitter un billet portant sur ce qu'on pourrait appeler le data colonialisme qui peut parfois entacher l'usage des technologies au service du développement. L'auteur de ce billet, en fait, s'interrogeait en particulier sur les méthodes employées par les acteurs du développement qui poussent parfois à une sorte de libération de données sur les populations sans parfois obtenir une sorte de consentement éclairé des populations ou sans observer un certain nombre de standards, notamment en termes de sécurisation des données personnelles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ce mouvement au service de la société civile mais en restant extrêmement précautionneux vis-à-vis des citoyens eux-mêmes ? Pierre Chranowski.
Oui, donc je crois qu'on on parle aujourd'hui beaucoup de données ouvertes, mais il y a un corollaire qui est la protection des données personnelles. Et je crois que c'est très important de le préciser. On ne peut pas faire de données ouvertes sans protéger la vie privée des citoyens. Et quand on parle de données ouvertes, quand on parle de protection des données personnelles, on parle en fin de compte de ce qu'on appelle des infrastructures numériques, c'est-à-dire qui gère ces infrastructures numériques. Et c'est vrai que dans beaucoup de ces pays en développement, eh bien, par exemple, on va avoir le système d'information santé qui va être hébergé dans un autre pays. On va pas très bien savoir à qui appartiennent ces données. On va collecter des données, par exemple, sur les citoyens via les mobiles sans leur demander leur consentement. Donc là, il y a un grand flou, je dirais. Et il faut vraiment que ces pays reprennent la main sur leur souveraineté numérique. Et donc c'est un rôle que doit jouer le gouvernement et c'est aussi un rôle que doit jouer la société civile en demandant à ce que ces gouvernements aient vraiment la main sur les données du territoire.
Continuons, si vous le voulez bien, Pierre Chranowski. Et là, on va partir, ou plutôt, on retourne à Madagascar, puisque l'atelier des médias était à Tana il y a encore quelques jours. Bonjour Prisca.
Bonjour Julien.
Alors Prisca Ranan-Jarisson, vous êtes journaliste et vous vous êtes intéressé avec le temps, en gros, à un certain nombre d'enquêtes qui portaient notamment sur le trafic illicite de bois de rose. Je ne me trompe pas, c'est bien ça l'enjeu de Exactement. Vos investigations. Alors dites-nous tout, j'ai l'impression que quand on enquête sur ce genre de thématique très importante à Madagascar, c'est extrêmement compliqué d'avoir des informations précises et des données factuelles.
Effectivement, j'ai fait cette investigation sur le bois de rose en 2014. J'ai frappé à toutes les portes, notamment du ministère et tous ceux qui étaient concernés. Mais malheureusement, j'ai pas eu de chiffres puisque c'est un sujet très sensible. D'ailleurs, c'était à l'époque où on a emprisonné les deux journalistes qui avaient dénoncé des trafiquants de bois de rose. Et jusqu'à présent, on n'a pas toujours des chiffres vraiment exploitables sur le bois de rose. Le gouvernement, il donne des chiffres, oui, mais les chiffres qu'ils veulent.
Est-ce que ça veut dire que vous avez dû renoncer à la réalisation de cette enquête ou vous avez trouvé une voie détournée pour vous procurer un certain nombre de données qui permettaient d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire du trafic en question illicite, Prisca ?
Et non, effectivement, j'ai pas renoncé puisque j'ai quand même fait l'investigation, mais qui portait plutôt sur la revalorisation des bois de rose saisis à cette époque-là.
Et je crois que vous portez actuellement une sorte de projet de plaidoyer justement sur à la fois la démultiplication et l'exploitation des données ouvertes à Madagascar, un pays, encore une fois, où sévit malheureusement la corruption. Quel est votre projet et comment faites-vous pour faire ce plaidoyer ?
En effet, à Madagascar, en fait, en tant que journaliste, on me confie toujours des grandes interviews. Et quand je fais mes grandes interviews, ça requiert notamment des chiffres. Et je fais toujours des pieds et des mains pour trouver les bons chiffres. Mais malheureusement, ce sont des données en format brut, pas très lisibles, que ce soit même pour les journalistes ou pour les citoyens lambda. Donc j'ai décidé de mener un plaidoyer, tout d'abord sur la démultiplication des données. Je sais que les données existent, qu'il y a des données existent, mais qu'il y a aussi des données qui n'existent pas. Par exemple, récemment, j'ai fait un article sur la vanille. Il y a des données qui existent, mais qui ne sont pas ouvertes. Voilà.
Vous êtes en train de nous dire que sur des enjeux aussi importants que la valorisation d'une des richesses en fait, de Madagascar, il est urgent d'avoir des données hyper précises pour réussir en fait, à suivre ce qui est en train de se jouer d'un point de vue économique à Madagascar.
Exactement. Par exemple, si j'utilise l'exemple de la vanille, ne serait-ce que pour le système de traçabilité, il faudrait qu'il y ait des chiffres exacts sur la situation de la vanille à Madagascar pour éviter par exemple les spéculations qui ont notamment conduit à la crise de la vanille.
Quels sont vos interlocuteurs, vous qui essayez de porter ce combat en un certain sens pour l'accès des citoyens malgaches à des données publiques utiles pour mieux connaître le fonctionnement de l'économie à Madagascar ? Comment vous faites ? Quels sont vos interlocuteurs ?
En fait, ici, en fait, à l'OGP, on va faire un discours sur l'intérêt d'ouvrir nos données à Madagascar. Et nous ne sommes pas ici pour représenter nos personnes, mais surtout, on est ici avec la société.
Pour faire entendre cette voix.
Exactement. Et on est avec la société civile à Madagascar, puisqu'on les a concertés, premièrement, pour le contenu du discours.
Quid de la société civile? Est-ce que vous avez la sensation que des collectifs comme Wake Up Mada, qu'on entendait par exemple récemment au micro dans l'atelier des médias, sont des collectifs qui vous aident à porter cette exigence de redevabilité vis-à-vis de vos gouvernements à Madagascar?
Oui, exactement. Leurs intentions sont vraiment très louables et ils nous soutiennent à fond sur ce projet de plaidoyer. D'ailleurs, je salue vraiment leur initiative. Mais à Madagascar, malheureusement, les citoyens sont las de faire des grèves, et c'est pour ça que dans la pratique, par exemple, il y a des gens qui préfèrent juste râler sur Facebook et ne pas aller dans la pratique.
Je vais vous poser une petite question un peu technique. On parlait aussi du problème du code de la communication qui a été adopté cet été dans des conditions un peu rocambolesques. Est-ce que vous pensez que ce code de la communication, qui est jugé liberticide, notamment pour les enquêtes, les investigations, pour les journalistes, est-ce que vous pensez qu'il est de nature à permettre cette ouverture des données publiques à Madagascar, ou est-ce qu'il faudrait revoir ce contexte juridique pour réussir à peser vraiment sur cet enjeu de libération des données, Prisca?
Je pense qu'il faudrait revoir le contexte juridique et refaire un dialogue entre la société civile et ceux qui promulguent le code, puisqu'en fait, il y avait une concertation, mais ça n'a pas abouti.
La concertation avec les blogueurs, les journalistes sur les enjeux de ce code de la communication.
Exactement.
Et aux surprises, a été adopté un code de la communication qui ne reprenait pas
les consultations, et donc qui est quand même une forme de rejet de la société civile, puisque quand même c'était avec la société civile qu'on avait fait le code initial.
Ce qui rejoint ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette question du gouvernement vert soit une question d'affichage et de communication. Il faut vraiment se convertir à une forme de culture à la fois de la donnée ouverte et de la redevabilité. Merci Prisca. D'ailleurs, je vous propose de prolonger cet échange avec Omar Radi. Bonjour Omar. Je vous laisse attraper le micro.
Bonjour.
Omar Radi, vous êtes journaliste d'investigation au Maroc. Vous avez travaillé notamment, vous, sur l'exploitation des carrières de sable en vous basant sur une base de données qui a été rendue publique par l'État marocain.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux de cette enquête et les difficultés auxquelles vous avez dû vous confronter, bon, Omar Radi?
D'abord, le contexte, c'était qu'on avait un nouveau gouvernement. Ce gouvernement-là parlait beaucoup de transparence et tout. Et donc, il avait promis dans sa campagne électorale qu'il allait mettre à rendre public plein de bases de données qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Donc ils ont commencé par deux bases de données, c'est les transports. Il faut savoir que c'est une économie de rente au Maroc. Donc les transports, c'est des agréments qui sont donnés par le pouvoir à des gens qui lui sont proches ou obédients, etc. Y compris, enfin, il y a plein d'activités économiques comme le sable, les palmiers, etc. Et donc ils ont mis en ligne la liste des détenteurs de carrières de sable au Maroc. C'est une liste. C'est un fichier Excel vieux comme en ferait mon grand-père.
Mais ils l'ont mis en ligne quand même.
Hein?
Mais ils l'ont mis en ligne quand même.
Ils l'ont mis en ligne, mais c'est illisible. C'est complètement illisible. Donc il fallait faire un travail de nettoyage et il fallait trouver qui sont ces gens derrière ces noms d'entreprises. Le travail d'investigation de terrain classique a été fait avec un collègue à moi. Donc on a ces 40 000 lignes de fichiers Excel, etc. Ils ont sorti une autre liste. C'est la liste des détenteurs d'agréments de transport public. Et là, ça s'est arrêté par la suite parce que on attendait. Ils avaient promis de sortir les licences de pêche en haute mer, etc. Ils l'avaient pas sorti. Donc ils ont vu, quand on a travaillé sérieusement sur le truc, ça pourrait constituer quand même un danger pour les gens qui sont derrière, les intérêts économiques sont derrière.
Oui, parce que Omar Radi, il existe en fait au Maroc un portail data.gov.ma, et vous êtes en train de nous dire qu'en un certain sens, quand ils se sont rendus compte que des gens s'intéressaient aux jeux de données, il y a eu une sorte de rétropédalage de la part des autorités.
Absolument. Alors si vous rentrez, j'invite tout le monde d'ailleurs à rentrer sur ces data.gov.ma, on dirait un service public, un guide. C'est 117 bases de données, et c'est des bases de données du style la liste des agences de sécurité sociale.
Vous êtes en train de nous dire qu'en gros, ce sont des données qui n'ont pas beaucoup d'intérêt.
Ce site a été lancé au même moment que le DataGov français a été lancé, et il avait les mêmes ambitions. Sur ce site, on ne trouve pas grand chose et personne ne s'y rend. Ce n'est pas très utile. On cherche plein de choses, à croiser plein de jeux de, de, de données. Il n'est pas utile. C'est juste un agrégateur de données qui existe par ailleurs sur le site du ministère des Finances, au commissariat au plan, etc. Alors, ça ne sert à rien. Il n'a eu aucune valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée était de dire au monde, au reste du monde, on a un autre DataGov.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes au Conseil économique, social et environnemental à Paris, dans le cadre du sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert, et on parle des données ouvertes et de l'accès à l'information pour essayer d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des différents gouvernements et de leur fonctionnement. Cette année, Omar Radi, vous avez, je crois, accédé à une base de données du registre foncier qui a révélé l'existence d'un large réseau de privilèges accordés à des serviteurs de l'État.
Absolument. Alors, au sud-est de Rabat, il y a une grande forêt, et c'est du foncier où habitent tous les grands commis de l'État, etc. On a découvert par la suite que ces gens qui habitent sur des superficies de 2 hectares, 1 hectare et demi, 3 hectares, 4 hectares, n'ont pas payé ça, et ces terrains-là appartenaient au domaine privé de l'État, c'est-à-dire appartenaient aux contribuables.
Donc au domaine public.
Au domaine public. Ça appartient à l'État. Et on a découvert qu'entre 1996 et 2016, ces terrains ont été accordés à des gens, y compris des personnalités étrangères qui ne sont même pas marocaines, et à des gens des services secrets, de l'armée, des partis politiques et des gens de la religion.
Et ce registre foncier est-il disponible sur Internet ?
Ce registre foncier existe sur Internet et il était à disposition des notaires, exclusivement à disposition des notaires. Et c'est avec un compte de notaire que moi j'ai accédé à ce registre. Et donc j'ai sorti très vite ces informations parce que je savais qu'ils allaient le fermer, parce que je publiais au fur et à mesure l'information et la liste des noms, et je savais qu'ils allaient le fermer. Et effectivement, le jour même, à 20h, quand l'information est sortie, ils ont fermé et ils ne l'ont plus rouvert. C'est-à-dire que même les notaires aujourd'hui n'ont plus accès à cette base de données. Ils doivent se déplacer maintenant dans les conservations foncières. Et si c'est du ressort d'une conservation foncière d'une autre ville, il faut prendre le train pour y aller.
Omar Radi, vous êtes donc en train de nous dire qu'il y a un portail d'open data au Maroc, qu'on a quelques données disponibles et qu'encore le champ des données disponibles se réduit. En gros, le gouvernement ouvert au Maroc, on n'y est pas du tout.
Non, on est en marche arrière, tout en nous emballant d'un marketing et d'un branding qui sert à l'image extérieure du Maroc. On est loin du compte. D'ailleurs, le Maroc vient de demander son adhésion à l'OGP pour cette édition. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à proposer. Je me demande qu'est-ce que l'État et le ministère des Nouvelles Technologies a proposé.
Donc la vigilance des journalistes et des acteurs de la société civile doit être démultipliée comme jamais.
Évidemment.
Pour continuer de faire pression.
Et vous savez, quand il n'y a pas des sources open data, ben on compte sur des sources, des insiders, des off, des gens à l'intérieur des choses qui nous sortent les documents quand même.
Bon, il va falloir continuer à suivre tout ça de très près, et l'atelier des médias
Absolument.
Va continuer de suivre cette question des données ouvertes et du gouvernement ouvert. Peut-être dernière parenthèse avant de fermer et d'en terminer sur cette édition. Pierre Chranowski, vous êtes donc très engagé sur toutes les questions de gouvernement ouvert. Vous étiez, je crois, en Tunisie très récemment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit coup de projecteur sur ce qui est en train de se jouer du point de vue du gouvernement ouvert en Tunisie, Pierre Chranowski ?
Oui, bien sûr. Donc, vous savez, la Tunisie donc, a connu une révolution il y a quelques années, et donc qui a adopté récemment une nouvelle constitution. Donc la Tunisie, qui fait aussi d'ailleurs partie des gouvernements ouverts, hein, elle a décidé donc d'engager une nouvelle stratégie d'OpenGov mais aussi d'administration électronique. Parce qu'on en a parlé, hein, les questions de données ouvertes, elles font vraiment aussi référence à comment on gère la donnée au sein de l'État. Et notamment, par exemple, on parlait tout à l'heure de problématique du cadastre. Eh bien, avec la Tunisie, on va essayer de co-construire un cadastre des adresses. Car c'est, il faut savoir, dans beaucoup de pays, on n'a pas encore de cadastre, enfin de registre des adresses qui permettent de situer précisément les bâtiments aux bons endroits. Et donc ça, c'est essentiel pour la vie d'un territoire. Donc ça va être un des projets qui va être fait. Et en plus, c'est un projet qui a été aussi mené par la France et d'autres pays. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la possible collaboration entre pays sur des notions technologiques, mais aussi sur des problématiques de ce qu'on appelle des communs numériques. Parce que finalement, en France, cette base d'adresse nationale, aujourd'hui, elle est co-gérée à la fois par l'État, par la Poste, par l'IGN, mais également par des associations comme OpenStreetMap qui contribuent à cette base d'adresse. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment des exemples très intéressants pour l'avenir.
Vous êtes en train de nous dire que finalement il va falloir suivre de très très près le cas tunisien, qui est un pays finalement pionnier dans le fait de trouver des solutions pour continuer de partager des informations utiles qui nous conduiraient peut-être vers le gouvernement ouvert. Pierre Chranowski, vous êtes spécialiste des données ouvertes, consultant indépendant, vous êtes proche de l'open knowledge. Bref, il faut qu'on continue de vous suivre. Merci à vous.
Merci Julien.
Sylvain Lapoix, vous êtes journaliste et enquêteur à bord de DataGueule et formateur pour CFI Média. Merci.
Merci beaucoup Julien.
Gaston Sawadogo, vous êtes journaliste burkinabé, vous travaillez pour l'événement et merci d'être venu.
Merci Julien.
Prisca Ranan Jarisson, vous êtes journaliste malgache et on vous remercie d'être venu.
Merci beaucoup.
Omar Hadi, vous êtes journaliste marocain, vous faites de l'investigation. Merci.
Merci à vous.
Vous pourrez retrouver toutes les références de cette émission sur nos réseaux sociaux et sur atelier.rfi.fr. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux sans qui cette émission n'aurait pas été possible. L'équipe de Démocratie Ouverte ainsi que tous les partenaires de Place to Democracy qui nous ont accueillis ici au cœur du Conseil économique, social et environnemental. Ils sont nombreux, c'est donc un très grand remerciement collectif que nous leur adressons et nous leur disons bravo pour tout ce qu'ils entreprennent. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons diffusé cette conversation sur notre Facebook Live. Donc merci de vos commentaires, de vos likes, de vos émojis en tout genre. Et c'est très facile à retrouver sur la page Facebook de l'Atelier des médias de RFI. Il nous faut bien évidemment remercier toutes les équipes du SGMAP, comme on ne dit pas, et de la mission Etalab. Je pense en particulier à Laure Lucchesi et Lucas Tourny, mais aussi à CFI, l'Agence française de coopération média, Sarah Guglielmi, Sandra Fontaine, Émilie Bergougnan, Julien Guette, Pierre Jalado et David Ivet. La semaine prochaine, on est de retour en studio et au programme, nous parlerons de la transformation des institutions culturelles à l'heure du numérique en compagnie de 5 chercheuses et professionnels aguerris du numérique. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.